Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Bélard Mboui, il est journaliste et directeur du site d'information économique dénommé finance-cd.com. Bonjour Bélard Mboui.
Bonjour Guy Maté.
Maître Nelly Mbangulumbulumbu, membre de la société civile du Nord Kivu et la présidente de l'association dynamique des femmes juristes DFJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti Yamama Mkongomani. Bonjour Madame Nelly Mbangulumbulumbu.
Bonjour Guy Maté.
Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Châtelot, il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Bonjour Christophe Châtelot.
Oui, bonjour Guy Maté, bonjour aux auditeurs.
Merci et à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité.
Vous nous écoutez déjà en FM sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes d'un regard sur la côté de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Bélard Mboui, le journaliste et directeur du site d'information économique dénommé finance-cd.com. Maître Nelly Mbangulumbulumbu, membre de la société civile du Nord Kivu et le président de l'association dynamique des femmes juristes DFJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti Yamama Mkongomani. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Châtelot, il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Au menu de cette émission, situation sécuritaire dans l'est de la RDC en ce qui concerne plus particulièrement les changements du ton diplomatique de la communauté internationale à l'endroit du Rwanda, situation précaire des femmes et des enfants déplacés internes des massifs au Nord Kivu à la suite de la guerre du M23, et enfin, le chef de l'État a permis au gouvernement Sama Lukonde d'assurer les affaires courantes. Pendant ce temps, l'informateur continue ses consultations. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur le briefing du chef de l'État devant la presse jeudi soir à Kinshasa. Au cours de ce briefing, beaucoup de questions ont été posées par les confrères journalistes. Parmi ces questions, il y a celle à travers laquelle un journaliste a rappelé la phrase qu'il avait prononcée pendant la campagne électorale en déclarant qu'à la moindre escarmouche, il n'hésiterait pas à déclarer la guerre contre le Rwanda. À cette préoccupation, il a répondu que dans les contextes actuels, il estime qu'observer la paix est plus sage que de se mettre dans une posture de guerre. Bélard Mboui, entre les moments où le chef de l'État avait tenu ce discours et maintenant, et à votre avis, qu'est-ce qui peut avoir changé pour qu'il affirme aujourd'hui qu'observer la paix est plus sage que de se mettre dans une posture de guerre?
Bon, disons que ce qui a changé, c'est juste la nature de la même personne. Quand il a parlé, c'était au mois de décembre passé, c'était la même personne, Félix Tshisekedi, mais qui était candidat à la présidence de la République. Et aujourd'hui, c'est la même personne, Félix Tshisekedi, qui est président de la République maintenant. C'est-à-dire que, vous savez, l'UDP, ce n'est pas n'importe quel parti, c'est un parti blanchi sous le harnais, comme on dit, qui a existé depuis 1982, plus de trois décennies, qui a formé des gens qui ont le bagou, qui savent parler aux foules, qui est souvent en usant parfois du populisme pour captiver les masses, quoi. Donc le président ne fait pas exception, il est l'héritier de cette lignée politique-là. C'est un homme politique particulièrement doué. Et il s'est transformé son discours en fonction des masses qui sont en face de lui. Quand il était à Matadi, par exemple, il ne parlait pas des histoires de guerre, qu'il allait faire la guerre avec le Rwanda, pas du tout. Là, il était à Goma, il était à Bukavu, il était à Uvira, c'est là qu'il sort ce genre de discours. Bon, est-ce qu'on peut lui reprocher d'être populiste? Il a été populiste. Est-ce qu'on peut lui reprocher Bon, on ne peut pas lui reprocher, c'est le choix qu'il a fait. Il appartient à la population d'être, de se montrer mature pour ne pas gober n'importe quel discours qu'un homme politique, président sortant soit-il, leur raconte, quoi. Voilà.
Merci, Maître Nelly Mbangu Lumbulumbu. On peut affirmer, comme vient de le dire Bella Mbouyi, que c'est le contexte électoral qui avait motivé cette déclaration, ces discours.
Bien évidemment, parce que quand on voit les discours prononcés hier, la déclaration faite par le président de la République, on s'est dit, et lui-même d'ailleurs, il a dit, le contexte est différent. Donc le contexte, quand il disait la moindre escarmouche, on sait que c'était pendant la période électorale, et aujourd'hui, il est déjà président, donc il doit avoir peut-être à tempérer ses mots. On comptait que pendant la période électorale, c'est une période qui est donnée aux candidats de pouvoir amadouer ou alors amener les électeurs à être de son côté. Donc moi, je pense que le discours a été prononcé à ce moment-là, juste pour, en fait, pour un besoin électoral, et aujourd'hui, le discours doit vraiment être différent. Et je me dis aussi, par exemple, le fait pour lui d'avoir été avec d'autres dirigeants il n'y a pas longtemps, là, donc la semaine dernière à Addis Abeba, peut-être qu'il a eu à avoir plusieurs conseils, donc on sait que peut-être que le chef de l'État a été, en fait, à discuter avec, échanger avec les autres, les homologues qui ont, par exemple, donné des conseils. Parce qu'en fait, comme il a dit, la guerre, c'est vrai, on peut la commencer, mais on ne sait toujours pas quand on la termine. Donc la guerre, ce n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter.
Merci Christophe Châtelot. Il y a quelques mois, il était dit qu'à la moindre escarmouche, une guerre serait déclarée contre les Rwandais. Aujourd'hui, il est dit qu'observer la paix est plus sage que de se mettre dans une posture de guerre. Au-delà du contexte électoral, comme l'a relevé Bella Mbouyi, au-delà des contacts que le chef de l'État a eu récemment avec ses homologues présidents, on peut dire que tout ceci peut aussi être le reflet de la nature confuse de cette crise dans l'Est de la RDC.
Ben, confus, oui, c'est confus d'abord en termes, j'allais dire, sémantiques. Chacun parle de guerre et évite de parler de guerre. Là maintenant, le président dit qu'il n'hésiterait pas à déclarer la guerre. Les États-Unis disent qu'ils font tout pour éviter qu'il y ait la guerre. Moi, ce que je vois et ce que l'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a d'un côté des militaires, des forces armées de République démocratique du Congo, les FRDC, une armée souverainiste loyaliste, se bat contre des soldats rwandais, des forces de défense rwandaises, identifiées par tous les services et les puissances que la Terre compte, sauf peut-être le Rwanda lui-même. Mais voilà, à partir du moment où des soldats se font face, où il y a des morts des deux côtés, moi je trouve que c'est déjà une guerre, c'est déjà un état de guerre. Donc pourquoi prendre autant de précautions et ne pas parler clairement des choses? Donc ça entretient en effet la confusion. Les FRDC sont déployés, mais ne sont pas là pour intervenir. On dit pendant longtemps qu'ils ne voulaient pas violer le cessez-le-feu. Or, il y avait des preuves quotidiennes que c'était le cas. Voilà, c'est vraiment le signe. En tout cas, j'ai l'impression que les autorités congolaises, que les forces de sécurité congolaises ne maîtrisent pas la situation. Ça, c'est une première chose. Et pour revenir quand même sur le contexte électoral, on s'aperçoit aussi qu'il y a un changement de ton sur l'attitude vis-à-vis du M23 lui-même. Hier, dans son intervention, le président Tshisekedi disait, en faisant un parallèle d'ailleurs avec Ukraine, Russie, Israël, Palestine, qu'il y avait des contacts et que dans toute guerre, il y avait des contacts avec la partie adverse, le Rwanda et évidemment le M23. Or, dans tous les discours ultra-patriotiques qu'il était de bon ton de prononcer durant la campagne électorale, il était absolument exclu, impensable, qu'il y ait un contact avec le M23. Ça aussi, ça ne participe pas à la clarté de la situation et ça n'éclaire pas non plus l'avenir.
Christophe Châtelot, est-ce qu'il y a un problème de maîtrise de la situation ou c'est plutôt la nature complexe, n'est-ce pas, de cette situation qui peut être à la base de tout ça?
Mais toute situation conflictuelle est complexe. J'allais dire par définition, c'est pour ça qu'on aboutit à l'usage de la force. C'est parce que toutes les autres voies n'ont pas marché ou ne peuvent pas marcher. Qu'il y ait une situation communautaire complexe, qu'il y ait des richesses souterraines qui attisent des convoitises, qu'il y ait des problèmes fonciers, qu'il y ait des problèmes parfois de délimitation de frontières. Oui, tout ça est une complexité, mais complexité vis-à-vis de laquelle chaque État doit apporter une réponse, doit avoir une réflexion et une réponse. Mais c'est un problème très sérieux dans le sens où, même si, comme tout le monde l'espère, les armes se taisent, il faudra en revenir à la source et aux racines du problème, qui en effet sont complexes, qui prendront du temps à résoudre, et ça n'en prend pas la direction, loin de là.
Merci. Merci. On prend une petite pause avec Confusion des Cabossés. On revient juste après.
Ton cœur s'est fermé comme un roc avant le deuxième chant du coq. Ma joie s'était évaporée dans le nuage de tristes pensées. Leyo Manaja.
Yosa, mon amour, Leyo Manaja. Yo fruit d'amour ya Irene Kanza na kosenga na yo leyo lukau yo mokito na dao bongwa ni koshema banza kamo tu akela bolingo zambe asine de bonore de veni leyo
agazul zulman na preferé na pelanga moko samo monda
Sirema na mimoni na zaman jeme
La totel lundi
Espoa na ngana zala tushu pene na yo Oya yo eko niko nyoko la na iren kanta Zala janti dene ya bote na yo Yo sa mon amoule yo manaja Fruida mu ya iren kanta Na kose ngana yo leo luka u Yo mo kitani adao bongwa ni koshema Banza kamota ke la bolimo zembe Insigne de bonheur et de venile yo
Sampe Mombeye, Grand Lac Michel Adiluya, la plume d'or
Sans toi, voiture sans monteur reste Na kokoma,
yébé la attend
Avant, pour être coupable à parfaire, est allé fané.
Honorable Néron Boum.
Sans toi, voiture sans moteur, est-ce la cocoma,
il est là l'instant.
Avant, pour être coupable à parfaire, est allé fané.
Ah, Gisèle Massamouna, maman a quitté notre Jennifer. Non, non, les Moïse.
Libalava, mes sacrates, le colamoua. Où ça va, pas? Bastignon, son baza, c'est bail l'unité. Yanda, ko baza, yalibata, pe baza. Chez les parents, moi solo, kanda, koya libala. Koya sana, libala, akono lula, libanda.
C'était Confusion avec Kabossé de son vrai nom, Raphaël Kabossé Boulembi. C'est un chanteur congolais né à Kinshasa dans la province du Congo central. C'est un ancien des Big Stars de Defao. Il a aussi évolué dans les orchestres Antichoc de Bozi Boziana et Wenge Musica, maison mère de Werason. On revient à l'actualité de cette semaine. Les États-Unis ont fermement condamné samedi 17 février l'aggravation de la violence dans l'est de la RDC causée par les actions du groupe armé M23 soutenu par les Rwandais, notamment ses récentes incursions dans la cité de Sake. Les États-Unis ont prononcé cette nouvelle condamnation dans un communiqué de presse publié samedi par les porte-parole de leur département d'État qui rappelle que le M23 est un groupe armé sanctionné par les États-Unis et les Nations Unies. Pour sa part, la France a condamné mardi 20 février la poursuite des offres offensive du M23 avec le soutien du Rwanda au Nord Kivu. Son ministre des Affaires étrangères a exprimé cette indignation sur son site internet. Il a ainsi recommandé à ces mouvements rebelles de cesser immédiatement les combats et se retirer de toutes les zones dont il occupe au Nord Kivu, conformément aux décisions prises dans le cadre du processus de Luanda. Le gouvernement français a également exigé au Rwanda de cesser tout soutien au M23 et de se retirer du territoire congolais. Christophe Châtelot, vous êtes journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Vous avez souhaité nous parler de ce sujet en les formulant ainsi. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, plus particulièrement les changements du ton diplomatique et de la communauté internationale à l'endroit du Rwanda. On vous écoute.
Oui, je voulais aborder ce sujet parce qu'en effet, on s'aperçoit qu'il y a ces derniers jours, entre la prise de position américaine, française, le mini-sommet qu'il y a eu à Addis Abeba, qu'il y a, je reprendrai les mots de votre ministre Lutundula, des Affaires étrangères, il y a un frémissement diplomatique autour de cette crise. Alors, c'est à la fois... une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que s'il y a cette mobilisation, c'est parce que la situation ne cesse de se dégrader dans l'est du pays. Je ne reviendrai pas sur ces dizaines, ces centaines de milliers de personnes déplacées, ces morts, ces situations indescriptibles. Je n'ai pas les mots. Donc c'est la très mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que cette mobilisation peut laisser espérer qu'enfin on ouvre la voie vers des discussions, vers la recherche d'une solution diplomatique. Alors, on en est quand même un peu loin, j'ai l'impression. Les déclarations montent d'un ton. C'est particulièrement notable, je dirais, du côté français, où il y avait une forme d'équilibrisme un peu ambigu on condamne les violences, mais on met... sur le même plan, la responsabilité de Kinshasa dans ses relations supposées ou avérées avec les FDLR, et de l'autre côté, les troupes rwandaises qui soutiendraient le M23. Là, les choses sont claires, voilà. On demande au Rwanda de rapatrier les soldats déployés sur le territoire congolais, c'est très bien. Sauf que ce que l'on voit en parallèle, c'est que ce que demande la RDC, c'est notamment... le cran encore supérieur, c'est-à-dire que l'on applique des sanctions contre un pays qualifié d'agresseur, donc, et ça au Conseil de sécurité pour l'instant où siège la France par ailleurs, il n'y a toujours pas de consensus et on ne s'avance pas vers cette solution, et accessoirement, on voit aussi dans le courant de la semaine que l'Union européenne et Kigali signe un mémorandum d'accord, c'est pas encore un accord validé à 100%, mais néanmoins sur la traçabilité du commerce des minerais stratégiques, ce qui est en effet un petit peu embêtant quand on sait les réseaux illégaux de commerce, d'exploitation, pas seulement rwandais d'ailleurs, dans l'est du pays. Donc est-ce qu'il y a un double langage ou des logiques différentes à la Commission de Bruxelles et dans les chancelleries occidentales, c'est aussi probablement le cas. Tout ça pour dire que les choses avancent à tout petit pas, que la prochaine étape, ça va se jouer à Luanda, d'après ce que l'on sait, en début de semaine prochaine, avec une rencontre entre le président Tshisekedi et Lourenço, le président angolais. Ça, c'est acquis. Qu'en est-il du président Kagame qui rencontrerait le président angolais également, mais séparément du président congolais? Ça, on ne sait pas encore. Est-ce qu'il viendra? Et surtout, de quoi peut-on discuter? De quoi les uns et les autres sont prêts à discuter autour de la même table? Si le préalable est le départ de tous les soldats rwandais et le casernement de tous les combattants du M23, j'ai bien peur que ce ne soit pas demain la veille que tout le monde se retrouve autour de la même table.
Voilà, et Christophe Châtelot, on peut parler du changement, dit-on, dans un contexte où la société civile, on l'a vu récemment, et les mouvements citoyens organisent des manifestations pour dénoncer ce qu'ils qualifient de silence coupable de la communauté internationale sur la situation de l'Est.
Ah, malheureusement, je ne pense pas que ce soit le poids de la société civile et les réactions qui font changer, qui infléchissent la position de ni de Washington, ni Paris, ni des autres. Je pense que c'est malheureusement et heureusement la réalité de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Voilà, le qu'il y ait des mobilisations de la société civile. Tant mieux, à condition aussi qu'elle ne soit pas manipulée, qu'elle soit, qu'elle se, voilà, que l'argumentation soit claire. Le président Tshisekedi le disait hier, voilà, oui, pour les manifestations pacifiques, chacun a le droit d'exprimer son opinion, mais après, de là à incendier une chancellerie, je pense qu'il y a en effet un pas qu'il ne faudrait pas franchir trop rapidement.
Merci. Merci, Maître Nelly Mbangulumbulumbu, membre de la société civile du Nord Kivu. Vous êtes présidente de l'association dynamique des femmes juristes DFJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti Amama Mukongomani. On attend toutes ces condamnations dirigées contre les M23 et contre son soutien qui est le Rwanda de la part de la communauté internationale. Mais entre-temps, on signe des accords avec ces mêmes Rwanda. N'est-ce pas paradoxal? Dans ces conditions, peut-on vraiment parler du changement des temps?
Merci beaucoup, Dimaté. Mais avant, je voudrais d'abord préciser que la société civile a milité longtemps pour que cette situation qui aujourd'hui décriée dans tout le monde entier soit en fait porte attention. Et aujourd'hui, je vais dire par exemple que au niveau de la province du Nord Kivu, nous avons organisé plusieurs actions de plaidoyer aux côtés même des représentants des organisations internationales pour parler de cette situation. Je vais par exemple vous dire que nous avons été dans plusieurs actions de plaidoyer avec la coordination humanitaire pour parler de la question. C'est la société civile, c'est toujours la société civile. Elle peut être nationale ou internationale. Nous avons organisé plusieurs actions de plaidoyer et donc je ne voudrais pas qu'on néglige l'apport de la société civile dans ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons vu aussi les mouvements citoyens et aussi toutes ces manifestations qui ont été organisées à Kinshasa ici tout récemment. Et aujourd'hui, qui portent à croire que quand même ça produit des fruits. Parce qu'en fait, avant que ces manifestations ne se présentent ou ne se réalisent, il n'y avait pas encore cette attention et ces tons que nous, aujourd'hui, on apprend à travers les médias. Où on sent aujourd'hui que même au niveau du Parlement européen, il y a quand même des représentants, des parlementaires qui commencent à parler de la situation de la RDC, sans porter les gants en fait. Donc nous pensons que quand même, la société civile a joué son rôle dans ce qui se passe chez nous et continue à jouer son rôle en dénonçant tout ce qui se passe. Et c'est ce qui a fait qu'il y a quand même beaucoup de changements. Je veux dire par exemple aussi qu'il n'y a pas tout récemment, nous avions aussi été avec le représentant donc, des Nations Unies, secrétaire adjoint de la Croix. Nous avons discuté avec lui à Goma où nous avons fixé tout ce qui se passe chez nous. Si les Français, et du coup, nous voyons une réaction du gouvernement français qui, en fait, demande au Conseil de sécurité d'avoir une réunion. Ça, pour nous, nous pensons qu'il y a quand même des efforts qui ont été consentis. Et nous avons aussi dit qu'il y a des efforts aussi de la part du gouvernement. Nous ne pouvons pas ignorer quand même, on va le dire, au mandat de Tshisekedi, il y a quand même une avancée par rapport à la perception même de cette situation par le monde entier. Je vais parler du Conseil de sécurité de toute la communauté internationale, ce qui n'était pas le cas avant. On a vu, avant, c'était négociation ou rien. Et il n'y avait rien qui se faisait à part les négociations. Donc, il suffisait seulement qu'il y ait une rébellion qui s'élève et pour qu'après quelques semaines ou quelques mois, on voit les gens s'asseoir et négocier. Donc, il faut quand même reconnaître cela et dire qu'il y a des efforts qui sont consentis. Si pour maintenant parler des contrats qui sont signés, nous allons dire ici que c'est avec étonnement que nous, on se pose la question, mais comment une organisation aussi sérieuse comme l'Union européenne, qui te dit aussi sérieuse? Parce que quand nous voyons toutes les procédures, par exemple, quand vous devez avoir un projet, il y a toutes ces procédures-là où on impose aux gens des politiques contre la fraude, des politiques contre... Mais ils nous disent que nous ne pouvons pas prendre l'argent des contribuables européens et prendre cet argent-là et dilapider parce que et ils travaillent pour en avoir. Mais je voudrais savoir, quand par exemple l'Union européenne signe ce contrat-là, elle s'est dit que ces minerais-là viendront de quel pays? Je sais que l'Union européenne sait que ces minéraux viendront de la RDC. Et moi, je trouve que ce n'est pas quand même acceptable. C'est inadmissible, surtout pour une institution aussi très respectée comme l'Union européenne, de signer un contrat avec un objet qui n'est pas l'objet du propriétaire même, de celui qui signe le contrat. Je vais dire ça comme ça. Quelqu'un signe un contrat quand il sait que l'objet lui appartient. Vous ne pouvez pas signer un contrat avec un objet qui ne vous appartient pas. Vous prenez un contrat avec quelqu'un, pourtant vous savez que l'objet pour lequel vous voulez signer votre contrat ne vous appartient pas. Donc c'est quelque chose qui nous gêne et ça continuera à gêner et nous allons continuer à dénoncer.
Merci Madame Nelly Mbangu Lumbulumbu. Bérard Mbouy, journaliste et directeur du site d'information économique finance-cd.com. Et s'il y a effectivement changement, dit-on, de la communauté internationale à l'endroit du Rwanda, cela peut avoir quelle influence sur le Rwanda à travers les M23?
Disons d'abord que, contrairement à ce que vient de dire ma prédécesseur, je ne crois pas que c'est la première fois qu'il y a une pression sur le Rwanda. Sous l'ancien régime, il y a eu une bien meilleure pression que celle à laquelle on assiste aujourd'hui. Lorsqu'il y a eu l'irruption du M23, première version, donc la mutinerie de M23, parce que le M23, rappelons-le, c'était des officiers de FARDC, ils se sont mutinés en 2012. Quand il y a eu la première guerre de M23 en 2012, il y a eu des réactions beaucoup plus fortes que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, parce que le Rwanda avait été sanctionné à l'époque par des suspensions, des suppressions de certaines aides budgétaires ou des aides aux forces armées du Rwanda venant des pays pourtant très connu comme particulièrement allié au Rwanda, comme les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Suède. Ils avaient sanctionné le Rwanda en 2012, ne l'oublions pas. Nous ne faisons pas comme si aujourd'hui nous découvrions le Graal pour la première fois. Cela n'est pas exact. Donc, il y a d'abord cela. Deuxième chose, qu'est-ce que cela peut avoir comme...
comme influence sur le Rwanda.
Comme impact, voilà. Sur le soutien, oui, du Rwanda à la rébellion du M23. Bon, il est à espérer que ça puisse avoir une influence sur le Rwanda, que le Rwanda puisse retirer ses soutiens au M23 et que cela puisse permettre de trouver des solutions de manière pacifique en abordant les causes les plus profonde de ce conflit, parce que n'oublions pas que Joseph Kabila avait vaincu le M23. Kabila avait vaincu le M23, le M23 avait pris Goma à l'époque, en 2012, et que les chefs de la région avaient demandé au M23 de se retirer de Goma en guise de bonne foi. Le M23 s'était retiré de Goma, et Kabila n'avait pas voulu négocier en position de faiblesse. Il avait à l'époque cherché le soutien de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et du Malawi, dont les troupes avaient été intégrées dans la brigade spéciale d'intervention de la MONUSCO. Et quand ils ont commencé à bombarder le M23 avait fui vers l'Ouganda à l'époque déjà. Mais malgré la victoire militaire, il y a eu quand même par la suite des concertations qui ont eu lieu à Kampala et qui ont abouti à ce qu'on avait appelé à l'époque déclaration d'engagement. Bon, déclaration d'engagement, ça veut dire quoi? Quand chacun s'engage, ça veut dire que c'est des accords quand même quelque part. Malgré la défaite du M23, il y a eu ça quand même, donc, à Nairobi. Donc, si on peut minimiser les pertes en vie humaine, minimiser les souffrances des populations, au lieu de tirer les choses en longueur, essayer de trouver ces solutions-là immédiatement, que ces gens qui sont déplacés, que ces gens qui vivent dans des conditions effroyables puissent chacun retourner dans son village en écoutant les uns les autres, trouver des solutions beaucoup plus durables, voyez-vous. Parce que Kabila, certes, il avait vaincu le M23 avec les aides qu'il avait pu obtenir, mais Kabila avait ce défaut de ne jamais tenir parole. C'est ça le problème aussi avec Kabila. Donc nous pouvons espérer que, pour une fois, nous pouvons aborder ces questions avec franchise, savoir pourquoi, parce que, malgré la défaite du M23 de 2013, ils sont quand même revenus après. En 2017, ils étaient déjà de retour au pays, ils étaient dans la forêt de Tchanzu là-bas, et fin 2021, la guerre a repris. Donc aujourd'hui, la RDC a pu obtenir encore le soutien des mêmes partenaires qu'en 2012, ça veut dire l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi. Bon, avec l'aide de Dieu, nous pouvons encore vaincre le M23 aujourd'hui. Mais si jamais il n'y a pas concertation pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe, peut-être qu'ils reviendront encore en 2029, ou en 2030, ou en 2050.
Merci. Merci, merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. On va donc écouter I Love You, cette nouveauté de Dadju et Taïk. On revient juste après.
Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puissant fondeur. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Non. Prends ta main, je ferme les yeux et je me sens bien. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. C'est moi, j'ai tout oublié, tu passais au marché. Dis-moi où tu t'étais caché. Oh, pourquoi j'ai mal, pourquoi je suis blessé. J'ai demandé à Dieu de nous séparer, mais il ne veut pas m'exaucer. Oh, c'est lui qui sait, mais son plan est déjà calé. Donc si c'est pour toi, c'est avec la joie que je vais pleurer. Et si je te dis que je t'aime, tu vas me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puissant fondeur. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Prends ta main, je ferme les yeux et je me sens bien. Oh baby, I love, I love, I love, I love.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la réponse donnée jeudi soir par le chef de l'État dans un briefing devant la presse sur l'éventualité de la guerre. Il a dit que dans les contextes actuels, observer la paix est plus sage que de se mettre dans une posture de guerre. Nous avons également analysé les changements, dit-on, de la communauté internationale sur le Rwanda. participe à cette émission, Bélard Bouille, le journaliste et directeur du site d'information économique finance-cd.com. Maître Nelly Mbangu Lumbulumbu, elle est membre de la société civile du Nord Kivu, elle est présidente de l'association dynamique des femmes juristes DFJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti Amama Mokongomani. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Châtelot, il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. La situation humanitaire que traversent des milliers de déplacés dans leurs sites et dans des familles d'accueil est inacceptable. Des personnes vulnérables, dont des enfants et des personnes du troisième âge, vivent dans des conditions inhumaines, d'après le groupe Martin Luther King, une association congolaise des droits de l'homme. Cette organisation, qui visite régulièrement ces sites des déplacés, affirme que ces personnes ont besoin de tout, en commençant par les abris, la nourriture, les ustensiles ménagers et l'eau potable. Malgré la solidarité des familles d'accueil et les interventions limitées des ONG humanitaires, la situation reste préoccupante. Maître Nelly Mbangu Lumbulumbu, vous avez souhaité nous parler de la situation précaire des femmes et des enfants déplacés internes des Masisi au Nord Kivu à la suite de la guerre du M23. On vous écoute.
Merci beaucoup, Monsieur Dimaté. Je voudrais ici dire que j'ai choisi ce sujet parce qu'en fait, nous avions analysé la situation telle qu'elle se présente pour le moment et depuis le début des hostilités dans la cité de Sake ou les villages surplombant la cité de Sake, nous avons remarqué que plusieurs familles, par exemple l'UNHCR et Intersos, qui ont dénombré plus de 49 000 personnes, ça ce sont des chiffres que nous avons obtenus le 15 février, donc 49 000 personnes qui ont quitté la cité de Sake pour la ville de Goma. Et donc, ce nombre, et il y en a encore d'autres personnes qui ont quitté après le 15 février, ce nombre vient s'ajouter à ces milliers de déplacés qui se retrouvent dans les camps et les sites réservés aux déplacés dans la ville de Goma. Mais nous devons dire ici qu'il y a aussi plusieurs ménages ou milliers de personnes qui sont aussi dans les familles d'accueil. Nous connaissons un peu la situation que traversent les habitants de la ville de Goma pour le moment, avec un peu la situation économique qui devient très fragile du côté de Rutshuru où les routes sont presque fermées, il n'y a pas assez d'activité agricole. Les femmes vivent essentiellement des activités agricoles, on va même à Masisi, c'est ce que font les femmes, on sait que ce sont les femmes qui sont plus dans les champs, qui font la culture, qui font l'agriculture, donc nous pensons qu'il y a une difficulté qui est déjà constatée et que aujourd'hui la communauté internationale, bien que la RDC pense qu'elle est présente dans le pays, mais elle est débordée avec ses milliers de déplacés. Aujourd'hui, on se pose la question, mais comment on parvient à pouvoir prendre en charge tous ces milliers de déplacés et déjà que même les personnes qui sont dans la ville sont elles aussi en difficulté. Je vais par exemple donner la situation des femmes. Les femmes aujourd'hui qui sont déplacées internes, je l'ai dit tantôt, elles n'ont rien. Elles ont quitté leur ménage, et vous l'avez d'ailleurs dit, elles ont quitté leur ménage sans avoir pris par exemple tout ce qui leur concerne, le kit de dignité. On sait que ce sont des femmes, il y a la protection des filles qui se posent dans les camps des déplacés, il y a la situation de la famine. Les gens n'ont rien, il n'y a pas d'assistance, il n'y a rien qui est donné, il y a juste des personnes de bonne volonté, des petites initiatives qui s'organisent au niveau de la ville, mais nous savons que ces personnes-là ne peuvent, on ne peut pas répondre à tous leurs besoins avec le peu de moyens dont disposent déjà les habitants qui sont vraiment dans la précarité.
Maintenant, Mbangu Lumbulumbu, vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce qui peut expliquer que ces personnes vulnérables et ces déplacés ne sont plus suffisamment assistées?
Bon, en fait, d'abord, on sait que la situation devient de plus en plus cyclique. Par exemple, on voit du côté des Nyiragongo, Rutshuru, ceux qui sont venus de Rutshuru, on a vu qu'à un certain moment, ils ont été un peu assistés. Mais le nombre aussi est devenu très grand. Quand on se pose la question avec même la coordination humanitaire qui s'organise pour chercher les moyens, mais qui peut donner un moyen pour nourrir plus de milliers de millions de déplacés? C'est compliqué pour nous. Et aussi, il y a la question de la gouvernance. Donc, le ministère qui doit s'occuper de cette question devrait aussi vraiment s'atteler pour que ces personnes parviennent à avoir l'assistance. On sent qu'elles sont là, pas d'assistance possible, elle se démène. Voilà pourquoi toute la ville est remplie des enfants qui sont en train de quémander ici et là. Il y a aussi la question de l'éducation des enfants. On s'est dit aujourd'hui, comment on parvient à assurer l'éducation à ces enfants-là? Je pense que c'est compliqué, même pour le gouvernement, mais on s'est dit, la grande option qu'il faut à prendre aujourd'hui, c'est de chercher une solution durable. Comment faire pour que ces personnes retournent chez elles et qu'elles parviennent à faire leurs activités comme elles ont toujours fait?
Merci.
Donc aujourd'hui, nous disons que le gouvernement devrait vraiment fournir assez d'efforts pour trouver une solution qui puisse en tout cas amener ces personnes à retourner chez elles.
Merci. Bélar Mouy, les humanitaires ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur les faits qu'il y a nécessité, n'est-ce pas, d'apporter de l'aide aux déplacés, mais ils affirment que le budget global, c'est seulement, lorsqu'ils présentent le budget global aux bailleurs, c'est seulement environ 20% qu'ils reçoivent de ces bailleurs. À votre avis, pourquoi les bailleurs semblent réticents, n'est-ce pas, pour apporter de l'aide? Est-ce lié au fait que les crises se multiplient à travers le monde et donc cela fait que la cagnotte n'est plus suffisante pour tout le monde, ou c'est plutôt un problème d'enjeu? Il y aurait des crises qui représenteraient un enjeu majeur par rapport à d'autres?
À part ce qui se passe chez nous, je crois que l'autre plus grande crise qu'il y a dans le monde actuellement, c'est plutôt à Gaza. Or, à Gaza, les principaux bailleurs ont suspendu leur donation à l'UNRWA, ça veut dire l'Organisation des Nations Unies qui assiste les Palestiniens de Gaza depuis plusieurs années, suite aux accusations d'Israël selon lesquelles certains travailleurs de cette agence auraient participé aux attaques du 7 octobre dernier. Donc, rien ne peut justifier que les bailleurs ne puissent donner des fonds à la RDC. Mais nous devons d'abord savoir que c'est de notre propre responsabilité d'abord. Il s'agit de nos propres citoyens qui sont déplacés. C'est nous qui devons contribuer d'abord plus que tout le monde. C'est vrai, nous sommes un État pas très riche aujourd'hui. Nous faisons face à la guerre avec ce que cela implique comme dépenses et tout ça. Mais c'est notre responsabilité d'abord à nous-mêmes. Si nous nous demandons le secours, on nous en apporte à un tel degré. Le gap, c'est à nous de le combler. Ce que j'aimerais dire en plus de cela, c'est que moi, j'ai fait le Kivu vraiment de part en part. Je ne sais pas s'il y a un endroit du Kivu où je n'ai pas mis mon pied. La population du Kivu est la plus dynamique du Congo. Dans tous les secteurs, même agricole, élevage, commerce, ils font preuve d'un dynamisme plus qu'admirable. Donc c'est des gens qui, s'ils n'avaient pas ces histoires de guerre, auraient fait encore beaucoup mieux. C'est vrai, quand vous allez dans des petites cités comme Bunagana ou Kiwanja ou Rutshuru Centre qui n'ont pas le statut de ville, mais quand vous y arrivez, grâce au dynamisme des populations locales, vous voyez les constructions, il y a quand même des conditions de vie qui font que vous pouvez vivre dans un lieu comme si vous étiez en ville. Si vous comparez par exemple avec Chimbulu Kasai, qui a un statut de ville depuis 2013, on ne peut pas comparer Chimbulu à Rutshuru Centre, par exemple, non. Chimbulu fait office d'un grand village du Moyen-Âge, quand vous comparez à Rutshuru Centre ou à Kiwanja. Donc, il faut permettre à ces gens de pouvoir rentrer chez eux. Ce sont des gens qui produisent beaucoup, et quand, en temps normal, ils ne sont pas embêtés par des guerres, ils ignorent même jusqu'à Kinshasa, 2000 km, avec des pommes de terre, avec la viande de goma, plein de produits agricoles, des petits pois qui nous arrivent jusqu'ici. Donc, il faut leur permettre de rentrer chez eux. Ce n'est pas des gens qui ont besoin de vivre de mendicité. Ce n'est pas des gens qui ont besoin de tendre la main pour qu'on leur donne l'aumône. C'est des gens qui veulent travailler parce qu'ils ont toujours travaillé avec efficacité. Qu'ils puissent produire ce qu'ils ont toujours produit. Qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants, les éduquer dans la paix. Voir son enfant grandir avec sourire, il n'y a pas mieux que ça. Aujourd'hui, Madame Lubulumbu vient de dire tout à l'heure qu'il y a des enfants qui sont pleins d'angoma. Mais c'est l'avenir qu'on assassine. Ça veut dire qu'on assassine. Ces enfants devraient être à l'école. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Donc, il faut arriver à mettre fin à cette guerre. Que le gouvernement nous dise quelle est la solution. S'il peut y mettre fin militairement dans un bref délai, c'est une bonne chose. Qu'il le fasse. Si il faut que ça s'enlise pendant des années, vaut mieux l'arrêter tout de suite et trouver des solutions beaucoup plus pacifiques.
Merci.
Voilà ce que je pouvais
Merci
dire.
Merci Christophe Châtelot. En attendant de trouver une solution durable pour se déplacer, une solution, n'est-ce pas, qui consisterait à mettre fin à cette guerre, qu'est-ce qui peut être fait dans l'immédiat pour sauver la vie de ces milliers, de ces millions de déplacés?
Vaste question. Tout d'abord, je voudrais dire à Madame Lumbulumbu que mon intention n'était pas du tout de minimiser le rôle de la société civile et l'impact que vos actions pouvaient avoir, notamment sur la sensibilisation des opinions publiques. Là où je suis un peu plus sceptique, c'est sur la capacité de la société civile à influencer les grandes puissances, les diplomaties, les organes de décision. C'est juste ce que je voulais dire. Je me suis peut-être mal exprimé. Je vous prie de m'excuser. Que faire? Je ne sais pas. Tant que la dynamique militaire n'est pas brisée, tant que le M23 n'est pas, dans un premier temps, contenu et ensuite neutralisé au sens premier du terme, qui serait un casernement. Ou un retrait du territoire, je ne vois pas trop ce que l'on peut faire. Il y a une chose qui m'inquiète. J'étais à Goma il n'y a pas si longtemps, et ce que me disaient plusieurs personnes qui regardent cette situation avec attention, ils se demandaient dans quelle mesure toutes ces personnes déplacées n'étaient pas non plus une arme entre les mains du M23, à savoir que la question de savoir si le M23 a la capacité ou intérêt à comme ils l'ont fait en 2012, rentrer dans Goma, une question en effet qui se pose, et il y a des arguments qui soutiennent qu'ils pourraient le faire, d'autres que non, n'y sont pas, donc, sauf que, comme disaient les personnes là-bas, c'est ce qu'ils peuvent faire aussi, et on voit que ça, avec Saké, c'est ce qui se passe, de mettre la pression sur les camps de déplacer à nouveau des gens qui ne cesse de se déplacer, et de mettre une pression sur Goma, c'est la menacer finalement d'être submergée par ces personnes désespérées. Donc c'est un vrai problème. Et il y a aussi une autre question que je me pose, en effet, sur la raison pour laquelle Kinshasa a du mal à mobiliser les agences concernées dans ce genre de situation. Est-ce que l'attitude ou les relations très tendues qu'il y a entre l'ONU et la RDC, qui se sont focalisées notamment sur la MONUSCO, il y a eu des mots très forts dits de part et d'autre, est-ce que on ne fait pas indirectement, c'est peut-être un peu cynique ce que je dis, mais payer à Kinshasa sa position vis-à-vis de la MONUSCO? Question que je me pose. Après, comment acheminer massivement de l'aide dans l'Est de la RDC, comment aussi rétablir la confiance vis-à-vis de la capacité du gouvernement, de la capacité de Kinshasa d'absorber cette aide, de la distribuer, de la répartir d'une façon efficace. C'est peut-être aussi une question que se posent les organismes internationaux, les agences ou les ONG, les grandes agences internationales.
Merci. On prend une petite pause avec Ouyargod et on revient juste après.
We are the ones who make a brighter day, sweetest
C'était We Are The World, une chanson caritative composée par Lionel Richie et Michael Jackson en 1985 pour venir en aide à l'Éthiopie qui connaissait une famine qui avait décimé des millions de personnes. Je rappelle que nous avons dans cette émission Bélard Mbouy, le journaliste et directeur du site d'information économique finance-cd.com. Maître Kennedy Mbangu Lumbulumbu, elle est membre de la société civile du Nord Kivu, elle est présidente de l'association dynamique des femmes juristes d'FJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti Yamama Mkongomani. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Christophe Châtelot, il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Le Premier ministre Samalou Kondé a déposé mardi 20 février sa démission auprès du président de la République Félix Tshisekedi à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le chef du gouvernement a ainsi opté pour l'Assemblée nationale conformément aux prescrits de l'article 108 de la Constitution qui exige aux élus de choisir entre leurs fonctions actuelles et les mandats électifs. Le délai de 8 jours accordé aux membres du gouvernement élus députés pour opérer ces choix a expiré mardi 20 février à minuit. Quelques heures avant, certains membres de son cabinet ont aussi déposé leur démission pour occuper leur siège à la chambre basse du Parlement. Après avoir pris acte de cette démission, le président de la République a chargé le Premier ministre d'expédier les affaires courantes. Bélard Mbouy, vous avez opté pour ce sujet, on peut savoir pourquoi.
Oui, merci beaucoup. J'ai opté pour ce sujet parce que cela démontre combien nous voulons parfois faire de la théâtralisation de l'action politique dans notre pays, alors que le pays est confronté à plusieurs défis, notamment le défi sécuritaire avec la guerre, un défi humanitaire d'une ampleur inédite avec plus de 5 millions de personnes déplacées. Nous faisons comme si nous avions le temps à perdre en tirant les choses en longueur, alors qu'on devrait immédiatement mettre des institutions en place afin de pouvoir s'attaquer aux problèmes auxquels le pays fait face. Vous savez, nous avons une certaine tradition dans ce pays qui fait que, au-delà même des textes de loi, lorsqu'une nouvelle Assemblée nationale s'installe, les ministres qui ont été élus députés démissionnent. Et dans ce cas-ci, le Premier ministre, c'est une pression partout, je crois que notre confrère qui est en France peut le dire, chaque fois de nouvelles élections sont organisées, le Premier ministre va présenter sa démission auprès du président de la République immédiatement. Et cette démission entraîne automatiquement la démission de tout son gouvernement. Il n'y a pas lieu que chaque ministre démissionne indépendamment des autres. C'est du théâtre, tout simplement, tout ça. Et immédiatement après, le président devrait pouvoir nommer son Premier ministre et celui-ci former son gouvernement et se mettre au travail. Je ne vois pas pour quelles raisons, dans un pays comme le nôtre, c'est tout ce que nous avons comme défi, le président de la République a été élu avec une plateforme que nous appelons Union Sacrée, qui a conçu un programme commun, qui a soutenu un candidat commun, et le candidat a été élu président de la République, et ensemble, ils ont obtenu plus de 450 sièges. Ça sert à quoi de nommer un informateur qui ne sait pas que l'Union Sacrée a une majorité plus qu'écrasante au sein de l'Assemblée nationale? Ça sert à quoi de nommer un informateur qui va prendre un mois à faire des consultations, après va nommer un informateur qui va prendre encore des mois pour former son gouvernement? À quoi ça sert? Vous savez, cette tradition de tirer les choses en longueur nous semble nous coller à la peau. En 2012, par exemple, Kabila a été investi le 21 décembre 2011, Matata a formé son gouvernement le 28 avril 2012, donc soit plus de 4 mois plus tard. En 2019, Félix Tshisekedi a été investi le 24 janvier 2019. Ilunga Ilunkamba, le Premier ministre, a formé son gouvernement le 28 août 2019, soit 7 mois plus tard. Alors, je vais vous donner un petit exemple pour la comparaison. Je ne peux pas citer la France ou la Belgique, comme on dirait que ce sont des pays de vieille démocratie. Macky Sall, au Sénégal, a été investi lors de son premier mandat le 2 avril 2012. Il a nommé le Premier ministre le 3 avril 2012, ça veut dire un jour après. Et le Premier ministre a sorti son gouvernement le 5 avril 2012, ils se sont mis au travail. Ça veut dire 3 jours après l'investiture du président, le gouvernement était au travail. 3 jours. Pourquoi ça se fait ainsi? Parce que dans un pays sérieux, tout candidat président sérieux sait au départ qu'il nommera Premier ministre après sa victoire. Il le sait, il ne doit pas commencer à chercher après les élections comme s'il était surpris. Mon confrère français avec qui nous sommes du journal Le Monde qui est là peut dire avec moi, nous savions, j'étais encore élève, étudiant à l'époque, en 1993, à l'issue des législatives, Nous savions tous que la coalition RPRUD fallait les remporter en France. Comme Chirac ne voulait plus être Premier ministre, nous savions tous que ce serait Balladur. Et à l'issue des élections, on a nommé Balladur.
Bélan Bouilly, vous évoquez tous ces exemples-là, mais est-ce que c'est les mêmes contextes que la RDC? Ça, c'est des un. Des deux, vous savez qu'il y a, entre le moment où il y a eu élection, réélection du chef de l'État, et maintenant, il y a eu des sous-plateformes qui étaient nées au sein de l'Union sacrée. Je pense que le chef de l'État avait besoin de se rassurer que tout le monde était encore avec lui. À un moment, c'est un formateur.
Ce n'est pas du tout une raison valable. Vous dites bien des sous-plateformes au sein de l'Union sacrée. Vous pensez certainement au PCR de Vital Kamerhe avec le Julien Paluku et d'autres, ainsi qu'à la plateforme qu'a créée le Premier ministre sortant, Sama Lukonde. Non, c'est des sous-plateformes qui disent leur fidélité au Président de la République, qui restent fidèles à la ligne politique qui a été la leur, qui restent membres de la famille politique chef de l'État. Donc, ils n'ont pas fait défection, ils n'ont pas fait dissidence contre le Président de la République pour qu'ils puissent s'inquiéter. Non.
Merci, Madame Nelly Mbangulumbulumbu. Comment vous analysez cette décision chef de l'État qui consiste à autoriser le Premier ministre à expédier les affaires courantes en dépit du fait qu'il y a cet article 97, cet article 108 de la Constitution, ainsi que le récent arrêt, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle qui interdisent aux ministres élus députés nationaux de rester au gouvernement, de choisir entre le gouvernement et l'Assemblée nationale?
En fait, il faut se dire que nous sommes en train de nous questionner sur pourquoi le chef de l'État choisit que les mêmes personnes qui ont été déjà d'ailleurs élues pour la plupart comme députés nationaux, pour le moment députés provinciaux, on se pose la question de pourquoi ces personnes doivent continuer à gérer les affaires courantes. En réalité, il faut se dire, Dimanté, que dans ces pays, on devrait quand même arriver à faire un choix. On ne peut pas être en même temps député national, député provincial, et on voit quelqu'un qui a été député devenir ministre. On doit quand même arriver à faire un choix. Et c'est ce qui manque, en fait. Ce que nous devons faire, c'est d'aller dans nos différentes lois, surtout la loi électorale, pour interdire ces cumuls de fonctions-là. Parce que par moment, on voit que vrai, on fait les choix. Après, on se dit, je choisis la députation nationale ou provinciale, ou alors le ministère, mais on devrait quand même arriver à arrêter pour donner la chance aux autres. Et il y a beaucoup de mécontentements par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Nous, par exemple, nous les femmes, nous voulons nous retrouver sur les espaces de prise de décision. Et nous pensons que si on parvenait quand même à résoudre ces questions-là de manière fondamentale pour dire si on choisit d'être député national, on ne peut pas compétir pour les autres postes. Je pense que ça sera très utile et important, et ça va aider à d'autres personnes aussi d'avoir le poste. Donc là, vous avez quand même désengorgé l'espace même politique, et ça peut amener quand même d'autres personnes à y participer. Mais ce que nous voyons là, on se pose la question, bon, comme le co-débatteur venait de le dire, M. Mbouilly, moi-même j'étais en train de me poser la question, mais pourquoi? Parce que on sait que si vous avez été élu et que vous avez fait les choix, vous devez normalement partir. Vous ne pouvez pas en même temps faire les choix et rester gérer les affaires courantes.
Merci Christophe Châtelot, on va finir cette émission avec vous. On ne peut pas se réveiller un matin et se mettre à poser des actes qui peuvent être considérés comme violents, n'est-ce pas, la Constitution. Certainement qu'il y a des raisons valables qui peuvent avoir poussé le chef de l'État à prendre cette décision qui consiste à demander au Premier ministre et au ministre élu déjà député d'expédier les affaires courantes.
Oui, j'espère qu'il a ces bonnes raisons. Mais tout d'abord, je voudrais dire que malheureusement, je connais beaucoup moins bien la politique congolaise que mon confrère Bélan Bouilly connaît celle de mon pays. En effet, c'est les atermoiements auxquels on assiste actuellement en RDC font plutôt penser à la 4e République française et cette instabilité chronique qui était liée, et je me demande s'il n'y a pas là-dessus aussi un point commun, qui était l'instabilité qui était liée donc à la multiplication des partis politiques et donc à des coalitions qui étaient un petit peu à géométrie variable. J'ai souvent la sensation, mais peut-être que je me trompe, encore une fois, je ne connais pas suffisamment finement la situation de votre pays, mais encore une fois, Monsieur Mbouyi, remontez loin à l'origine de la constitution du pays, ces communautés qui ont été mises ensemble, ces régions qui ont été amalgamées, à chaque fois en RDC, je suis marqué en effet par le régionalisme très fort. Donc, est-ce que la constitution d'un gouvernement répond d'abord à une équation qui vise à rassembler le maximum de compétences pour chaque domaine concerné, ou est-ce qu'il s'agit avant tout d'un dosage géographique qui consiste à satisfaire des clans, des familles, des puissances, des pouvoirs régionaux? Et encore une fois, ce n'est pas une particularité congolaise, dans tous les pays c'est la même chose, mais en RDC, on a la sensation que c'est particulièrement prégnant et que ça domine un petit peu tout et que ça finit par neutraliser aussi, par ralentir le fonctionnement des institutions. Hier, le président Tshisekedi invoquait quant à lui une situation d'urgence que personne ne peut nier, aussi bien sur le plan économique que sécuritaire, pour maintenir les ministres sortants dans leurs fonctions. Ça, on l'entend aisément, mais ça ne devrait pas empêcher, dans le même temps, de s'agiter, de s'activer pour avoir une nouvelle équipe, donner un nouvel élan pour ce nouveau mandat. Voilà, il est le premier à l'admettre, le président, qu'il faut partir sur de nouvelles bases. Je comprends que chez vous, chacun l'attend avec impatience. Oui.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Bella Mbouyi, Maître Nelly Mbangu Lumbulumbu et Christophe Châtelot. Merci aussi à Jean-Claude Nsiala qui était à la technique avec la participation de Christian Omombe, DJ Zadi et d'Hervé Voka sous la supervision des Martins Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Tête Africaine de Kisangani Espérant, Djengaka, chanson sortie en 1982 dans l'orchestre Langalanga Star. On rappelle que Djengaka Kisangani Espérant nous a quittés il y a de cela 29 ans et on se retrouve le samedi prochain.
Langa, langa. Kinshasa. Voyez.
Bakanae, Banyango yogo. Bakanae, Banyango yogo. Natamo la moto Kinshasa bakamwa lelele mayase. Papa kuja trube na komi defase lelele teta fike. Nasara lika mwishakana. Na bongo la mai na vinu. Na pesa yomila. Bongo yo fiti sabote ma. Namesana kolangwisa e, namesana kotube bango, namesana kolangwisa lelo yo zingalele monamu. Pasope imatina komiko luka zela nini nalata. Nakoma profeta Moise, nakabole bale nabu yale, banguna yala mulu oyu, atika nangambo yesusu.
Aleluya, aleluya.
Naebia solo palo. Lisoy landa kase loko bako pekisa. Bako pekisa. Mwasi basale la zwa ebe bivali bako landa. Ngayo ho, ngayo ho. Lisoy ebe, lisoy ho.
Yeah.